J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une jeune fille, une jeune ado qui aimerait rencontrer la beauté des tableaux. Elle essaye plein de trucs, mais rien n'y fait. Un tableau jamais ne la touchera autant que de la musique ou un paysage. Elle essaye de combler ses lacunes en histoire de l'art, mais ça ne marche pas. Elle a beau savoir que Courbet, c'est la naissance du réalisme, elle n'en devient pas pour autant sensible à un enterrement à Ornans. Elle tente d'écouter les guides, mais chaque fois son attention est attirée par autre chose. Par exemple, comment le guide est habillé. Elle essaye de ralentir, car on lui a dit qu'elle est trop speed, mais ça marche aussi bien que lorsque son ostéo lui dit « détendez-vous ». Elle essaye d'aller voir les tableaux qu'on lui a indiqués, un autoportrait de Rembrandt, un dripping de Pollock, mais chaque fois, elle est déçue. Soit parce que ça ne correspond pas, soit parce que ça correspond trop. Et puis un jour, tout change. Elle comprend un truc. Il n'y a rien à faire, rien à penser, rien à savoir, enfin peut-être pas, mais en tout cas, c'est moins une question de connaissance qu'une question de présence. Être là, devant la toile, en sa présence. En l'occurrence, c'est une toile de Frida Kahlo, The Frame. Et là, ça se passe. Ça passe à travers elle. Ça y est, elle a le truc. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc. Elle se laisse traverser. La présence des couleurs et des formes intensifie sa présence. Sa présence à elle-même, à son corps, à son esprit, sa présence au monde. C'est magnétique, ou électrique, ou chamanique. Elle n'a pas les mots, mais elle a l'émoi. Est-ce qu'elle est en transe? Est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle danse? Est-ce que ça danse en elle? La souffrance de Frida Kahlo, sa souffrance et sa joie aussi, tout est là maintenant qu'elle a ouvert les yeux. Tout est là dans son corps et son âme d'ado maintenant qu'elle a appris à voir. C'est beau. Elle parle autant de Frida Kahlo, de ce qu'elle sent en elle. Elle parle autant de Frida Kahlo que de cette vie qu'elle sent en elle, cette vie soudainement agrandie. Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir quelqu'un dont c'est le métier de nous apprendre à voir. Historien d'art et écrivain, auteur d'un roman événement vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, traduit dans le monde entier et bientôt adapté au cinéma, Les yeux de Mona, sorti chez Albin Michel. Thomas Schlesser est avec nous ce matin sous le soleil de Platon, ou plutôt celui de Botticelli, de Cézanne, de Georgia O'Keeffe, de Rosa Bonheur ou de Pierre Soulages. Et avec lui, Thomas Schlesser, nous allons nous demander comment on apprend à ouvrir les yeux, comment on apprend à voir.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Thomas Schlesser.
Bonjour Charles.
Vous allez bien?
Mais bah très bien, et vous-même?
Bah bonne année.
Excellente année à vous.
Écoutez, j'ai entre les mains ce livre incroyable. Alors, on en a déjà beaucoup entendu parler, vu l'énorme carton que c'est. C'est un carton du monde d'avant. Il n'y avait plus de cartons comme ça aujourd'hui, mais voilà, c'est le monde d'avant qui revient. Des centaines de milliers d'exemplaires, ça marche dans d'autres pays, ça va sortir au cinéma. Et ça raconte l'histoire. Et à partir de cette histoire, on va arriver dans notre question philosophique. Comment on réussit à ouvrir les yeux? Comment on devient sensible à cette beauté des tableaux, notamment? Mais quand même, je raconte un peu l'histoire. C'est une jeune fille, donc, qui s'appelle Mona, et qui a un problème de vue. Elle risque de perdre la vue, et elle doit aller voir un pédopsie, et ses parents ont confié cette mission à son grand-père. Mais ce grand-père a une excellente idée, c'est de l'emmener plutôt au musée.
Oui, c'est ça. En fait, ce grand-père se dit que si d'aventure elle devait plongée malheureusement, tragiquement, dans l'obscurité à jamais, eh bien, elle aurait du moins le souvenir des choses les plus belles que l'humanité peut produire en allant au musée régulièrement et en s'immergeant, en s'impliquant dans un tableau, une sculpture, une photographie, une fois par semaine. Et c'est très important d'ailleurs dans le protocole entre les deux.
Ouais.
C'est simplement une œuvre par semaine.
Et oui.
Hein, c'est pas une consommation du regard telle qu'on peut l'imaginer dans une exposition où on avale des kilomètres de tableaux. Là, c'est vraiment une focalisation à chaque fois sur un seul objet.
Ouais, c'est intéressant. Déjà, les mots que vous employez nous donnent une idée de la réponse. Hein. S'impliquer, focalisation, ne pas être dans la hâte, ne pas saturer le regard. Je vous lis Thomas Schlesser, donc Les yeux de Mona chez Albin Michel. Il allait falloir qu'elle l'accompagne dans les musées. Si par malheur Mona devenait un jour aveugle à jamais, elle jouirait au moins d'une sorte de réservoir au fond de son cerveau où puiser des splendeurs visuelles. Pour sa petite Mona, il imaginait donc mieux que la médecine. Ils iraient au Palais du Louvre d'abord, au Musée d'Orsay ensuite et enfin à Beaubourg. Là, oui, là, en ces lieux dévolus à la conservation de ce que l'humanité avait fourni de plus audacieux et de plus beau, il trouverait un fortifiant pour sa petite fille.
Oui. Et oui, je le crois fondamentalement. Je pense que ce sont des fortifiants, les œuvres des musées, pas simplement des musées, d'ailleurs du patrimoine en général, la création en général, ce sont des fortifiants, c'est-à-dire des agents d'amélioration de nos vies au quotidien. Ce sont des agents existentiels, si vous voulez.
Amélioration, même, vous voulez dire sur un plan éthique ?
Ah oui, je le crois, parce que... Alors, je vais être vraiment sous le soleil de Platon. Moi, je fais partie des gens à l'ancienne qui pensent que le bien, le beau et le vrai finissent par se confondre.
Le beau et l'éclat du vrai.
Oui.
La splendeur de la vérité.
Et donc, sous ce soleil platonicien, je dois dire, je crois en effet que là, on va chercher la beauté, on va chercher en soi ce qu'il y a de meilleur de nous-mêmes, ce qu'il y a de plus moral, tout simplement. Le mot ne me fait pas peur.
Ouais, c'est rare. Et d'ailleurs, dans le chemin, à chaque fois, donc il y a une œuvre par semaine, et puis il y a une sagesse de vie qui est associée à chaque œuvre. Alors, je prends quelques exemples pour qu'on comprenne ce que vous venez de dire, justement. Alors, pour Friedrich, par exemple, c'est ferme l'œil. Enfin, non, je vais le faire dans l'ordre chronologique. Pour la Joconde, c'est souris à la vie.
Ouais.
Pour Rembrandt, connais-toi toi-même.
Ouais.
Pour Watteau, ça j'ai adoré, en toute fête, sourd une défaite. Friedrich, ferme l'œil de ton corps, ça va être un peu le sujet de l'émission. Mmh. Est-ce qu'il faut être un corps ou ne plus être un corps? Pour Courbet, alors ça, je précise que vous êtes spécialiste de Courbet, vous avez fait votre thèse sur Courbet. Pour Courbet, crie fort et marche droit. Mmh. Rosa Bonheur, l'animal est ton égal, etc. Kandinsky trouve le spirituel en chaque chose. Et puis quand même, Hartung, puisque vous êtes aussi président de la Fondation Hartung, va comme l'éclair.
Oui, 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 avec à chaque fois, en fait, cette idée que au-delà du dispositif vraiment de forme, des couleurs, des symboles d'une œuvre, quand on l'expérimente vraiment, on en tire toujours... un petit précipité qui est au service de soi-même et qui donc est au-delà du domaine esthétique. Et d'ailleurs, le roman est construit de la manière suivante, c'est que à la suite de chacune des leçons de vie, Mona, d'une manière plus ou moins directe, va l'appliquer dans une partie, dans
de
un
sa vie,
substrat
sûr.
Qui est plus romanesque, plus fictionnel, avec un récit de vie. Et en effet, l'animal est ton égal, elle va s'en servir pour penser l'animalité autrement, etc. Ouais. etc.
Et d'ailleurs, donc, vous faites des choix bizarres, parce que Rosa Bonheur, alors, il est un peu dur d'accès, le tableau que vous choisissez, c'est des vaches, en fait,
oui.
qui sont un peu alignées, comme ça.
Oui.
Étrange choix.
Bah c'est
je veux dire, s'il y avait à choisir que 55 œuvres. D'ailleurs, c'est que de l'histoire occidentale, on y viendra après, mais oui. c'est quand même bizarre d'avoir mis ce Rosa Bonheur, je trouve.
Mais c'est un tableau incroyable. C'est une scène de labourage. Donc en fait, vous avez un tableau qui est très étiré sur l'horizontale, où vous avez des mottes de terre, mais qui sont onctueuses comme de la mousse au chocolat au premier plan. Vous avez des bouviers qui accompagnent ces bêtes.
Ah oui.
Et vous en avez en particulier un qui pique avec une gaule une des vaches, et celle-ci du coup a l'œil qui se dilate, et cet œil vient rencontrer le nôtre tant que public, en tant que spectateur. Que fait Rosa Bonheur en la matière ? Elle crée une empathie. Et dès lors, en effet, on peut en déduire, avec le grand-père de Mona, avec Mona ou avec l'humble auteur qui est à ce micro, que l'animal est notre égal.
Alors je suis en train de déplier la jaquette. Donc ce Rosa Bonheur s'appelle Labourage nivernais, le sombrage. Et ce qu'il faut expliquer, parce que tout le monde ne le sait pas, c'est que la jaquette est dingue. Quand on la déplie, on a un énorme poster avec tous les tableaux. Donc on voit l'ordre des tableaux, l'enchaînement des tableaux que le grand-père fait découvrir à sa petite-fille. Et puis bien sûr, c'est magnifique de lire et d'avoir ce poster à côté de soi qu'on peut déplier.
J'irai un petit peu plus loin par rapport à la thématique de notre émission, c'est que cette jaquette qui se déplie offre aussi une espèce de cartographie mentale de l'expérience que Mona fait avec son grand-père. Et pensez à ça pas simplement en tant que philosophe, que les auditeurs pensent à ça collectivement. Nous avons tous en nous-mêmes, sans forcément en avoir pleinement conscience, des réseaux d'images que nous aimons, qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Alors la particularité, c'est parce que notre esprit est quelque peu limité sur le plan des représentations abstraites, ce sont des images qui sont souvent très parcellaires. Mais elles nous habitent, elles sont là, avec un regard, une couleur, une composition. Et j'insiste, elle nous compose en tant qu'être.
Alors là, c'est très intéressant parce que ça voudrait presque dire que pour apprendre à ouvrir les yeux, au fond, il faut les fermer pour retrouver les images qu'on a à l'intérieur de soi, les images mentales.
C'est la leçon que vous veniez de lire, qui est celle de l'artiste romantique allemand Caspar David Friedrich, artiste du début du 19e siècle, qui a eu une carrière assez étonnante, puisque c'était quelqu'un qui a d'abord été connu, puis qui est tombé dans l'oubli de son vivant à la fin de son existence, et puis qui ensuite a été réhabilité un petit peu plus tard, à partir des années 1890, donc quasiment 50 ans après sa mort. Si je vous dis ça, avant de dire un mot sur le fond, c'est parce que ça nous apprend bien que l'histoire du regard, elle change. Il y a des évolutions de goût. Et qu'il y a des moments où nous ne voyons pas
les artistes qui parlent.
Et des moments où nous les revoyons. Et c'est l'historien qui parle, en effet. Alors, en effet, la leçon de Caspar David Friedrich...
Elle est quand même bizarre. Je rappelle le titre, c'est « Ferme l'œil de ton corps ». Et évidemment, c'est compliqué à comprendre, parce que moi, ma première idée, c'était que pour apprendre à voir, il faut retrouver son propre corps. Et en tant que corps, être traversé par la beauté.
Vous avez parfaitement raison, Charles. Et puis, même on pourrait aller plus loin en disant que, basiquement, un artiste, la première chose qu'il doit faire, c'est le saper vedere, c'est le savoir voir, c'est-à-dire observer le motif qu'il a en face de lui-même pour le retranscrire le plus fidèlement possible. Mais c'est vrai, Friedrich dit un peu autre chose. Alors il dit de fermer l'œil du corps pour ouvrir l'œil de l'esprit. Qu'est-ce que ça signifie ? Bien, ça signifie que, aux yeux de Friedrich, c'est la façon dont l'environnement visuel nourrit nos sensations intérieures, et pas simplement nos sensations intérieures, également notre intellect, notre mémoire, c'est-à-dire tout ce qui est d'ordre cérébral, qu'il ne faut pas oublier. C'est cette façon dont, en fait, les deux interagissent, qu'il s'agit d'aller trouver en soi-même, en méditant sur son intériorité, pour ensuite le retranscrire sur la toile. Ouais. Et j'irai un tout petit peu plus loin, si vous le permettez, le fantasme de Friedrich, c'est que quand un spectateur, quand quelqu'un, homme ou femme, enfant ou vieillard, est devant une de ses œuvres, il la regarde et ensuite lui-même ferme les yeux pour aller chercher dans son intériorité ses propres images et ses propres sensations.
Ah oui, c'est très beau. Et d'ailleurs, on comprend aussi deux choses importantes de votre démarche. C'est que vous décrivez beaucoup les œuvres. Et c'est dans le roman, c'est le grand-père qui le fait. Et ça, c'est des prouesses techniques. D'ailleurs, je crois que ça a un nom.
Ah oui, c'est un ekphrasis.
C'est un nom un peu technique.
Voilà. Un ekphrasis, c'est en grec, ça veut dire une description tellement hallucinatoire qu'on la voit mentalement.
Voilà. Et elle a la caractéristique, cette description, moi je suis pas un expert, mais d'être à la fois assez courte, c'est-à-dire une page en gros, et en même temps ultra précise, d'où l'impression d'être devant.
Oui, c'est
gentil. Vous faites ça pour chaque œuvre.
Oui, c'est d'abord, merci de le souligner, parce que c'était à la fois un défi littéraire très très.
Moi, c'est ce que j'ai préféré, moi.
Ah, c'est très. C'est, alors, j'apprécie énormément votre compliment, Charles. Il se trouve que, en deux mots, je me suis lancé dans ces descriptions parce que quand je commence à écrire le livre en 2013, il y a un peu plus de 10 ans, je me suis dit, le livre parlant de cécité, il est inconcevable que ce soit un roman qui ne soit pas accessible à des déficients visuels. Et donc, il faut que par la force des mots, il puisse avoir une forme d'image mentale, même si avec des aveugles de naissance, ça marche forcément un peu moins bien qu'avec des gens qui ont perdu la vue au cours de la vie. Mais, de fait, ça a créé dans le roman des passages en italique qui sont d'un autre registre de langage que le reste. Le roman est d'un langage plutôt simple,
et
très
classique,
accessible.
Classique, ouais.
Et les ekphrasis, en revanche, sont en effet très soutenus, très détaillés, et créent une espèce d'autre musicalité. C'était un peu, pardon de la vulgarité, c'était un peu casse-gueule. Je me demandais ce que ça produirait comme effet.
Ah bah de toute façon,
j'apprécie votre...
Mais attendez, il faut quand même être honnête. Tout est casse-gueule. Hein, parce que vous avez à la fois un truc d'histoire de l'art implicite, vous avez un roman, vous avez plein de sagesse de vie, vous avez des moments très érudits d'ekphrasis, c'est-à-dire de description. Donc ça fait quand même quelque chose d'étrange. Mais ce qu'on devine aussi, c'est qu'il y a quelque chose de militant chez vous, anti-dualiste. C'est-à-dire, au fond, ce n'est ni une question d'émotion pure pour apprendre à voir, pour revenir à notre thème, ni une question de réflexion. Au fond, vous montrez que cette distinction ne marche pas.
Non, elle ne marche pas. Alors, évidemment, quand je veux faire un peu démago et faire plaisir à tout le monde, je vais me contenter de dire en se plongeant dans un tableau, les émotions peuvent naître, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne dis pas que ce n'est jamais vrai. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est qu'avec la peinture, ça ne marche pas, enfin avec les arts visuels, ça ne marche pas aussi simplement qu'avec la musique. La musique, c'est ça qui fait que la musique est quelque chose d'irremplaçable. La musique a cette vertu de nous transporter très souvent avec une immédiateté extraordinaire. Ouais. Et vraiment, en jouant sur des gammes d'émotions qui sont très puissantes, la musique nous tire les larmes très vite. Ce n'est pas la même chose avec de la peinture, avec de la photographie, avec de la sculpture. Ça suppose quand même un aller-retour permanent avec une dose de savoir. Pas forcément un savoir d'érudition, mais une dose de savoir. Et c'est donc dans cet entre-deux qui se joue quelque chose de très spécifique, et c'est ce dont j'essaye de faire la démonstration dans les yeux de Mona.
Et en même temps, vous dites aussi que finalement, tous les accès sont possibles.
Oui.
Et on peut avoir un accès immédiat à la peinture comme avec une musique. Moi, j'ai eu ça par exemple avec Rothko, c'était immédiat. Et puis à l'inverse, là, pendant longtemps, j'ai écouté Bob Marley et ça ne m'a pas plu du tout. Et puis finalement, si. C'était évidemment ce 1er janvier, Bob Marley, Three Little Birds.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours pour ouvrir cette année, il n'y a rien de mieux, avec Thomas Schlesser et son livre Les yeux de Mona. Nous parlons de la beauté, comment apprendre à la voir, à l'apprivoiser, à être traversé par elle. Vous disiez, Thomas Schlesser, avant qu'on écoute Bob Marley, que ce n'était pas réflexion ou émotion, que ça pouvait être mélangé. Vous disiez aussi que parfois, il fallait fermer les yeux pour retrouver des images mentales. Et peut-être, je voudrais qu'on arrive à la question du ralentissement. Parce qu'on imagine bien que dans notre époque de hâte, de sollicitation, ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir, c'est que simplement on ne prend pas le temps de voir. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu un cliché ? Est-ce qu'on peut pas aussi être pressé et être saisi par un tableau?
Mais bien entendu, il y a mille et une manières. Et d'ailleurs, quand on traverse une exposition un peu rapidement, je trouve que c'est un bon exercice. On est un peu en attention flottante et on peut accrocher sur une œuvre ou sur une autre, quitte à aller la revoir après. Mais bien évidemment que l'expérience de la vitesse est tout à fait valable aussi. Bon, néanmoins, vous me l'accorderez.
Ouais.
On est même dans une époque où ça va tellement vite, surtout avec le flux d'images, que même si c'est un lieu commun de ralentir, en revanche, c'est pas un lieu commun de le faire.
C'est vrai.
Commun qu'on dit, mais qu'on n'accomplit pas beaucoup. Alors, c'est un petit effort, mais c'est un effort minimal pour des résultats qui peuvent être vraiment efficaces. La première chose, c'est, je crois, il faut accepter de prendre un petit peu de temps avant d'être convaincu soi-même par une œuvre.
Laisser sa chance à l'œuvre.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est vrai, bien sûr, pour les arts visuels, mais c'est vrai aussi pour la musique, le cinéma, la littérature, etc. D'autant que, je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais j'imagine que beaucoup d'auditeurs vont se reconnaître dans cette expérience. Les œuvres que nous avons mis du temps à aimer, une fois qu'on a passé le cap, on les adore. Il y a comme quelque chose d'un peu plus mérité et puis sans doute de beaucoup plus profond aussi. Combien de fois j'ai entendu des gens me parler de la difficulté qu'ils avaient eu à lire Proust et puis finalement à un moment donné, ça bascule, ça passe de l'autre côté et ça devient merveilleux. Donc ça, c'est une première patience qu'il faut accepter. Hein, ce n'est pas parce que Cézanne ne vous parle pas du premier coup qu'à un moment donné, la chose ne va pas jaillir.
C'est d'ailleurs, je crois, votre cas. Avec
oui, absolument, vous avez raison. Je suis pas sûr de le dire dans le livre.
Mais je vous ai entendu le dire ailleurs.
Oui, c'est vrai. Ça
m'avait choqué parce que pour moi, Cézanne, c'est objectivement, immédiatement saisissant, envoûtant. Et vous racontez que non, cette lumière-là, au début, ça vous a pas parlé.
Exactement. Et donc, du coup, ça crée une frustration et donc une impatience puisque, en plus, c'était mon métier, historien de l'art. Et donc, je ne le disais évidemment pas à mes étudiants, mais je ne comprenais pas Cézanne.
Ah bon ?
Les œuvres ne se levaient pas. Et puis, au bout d'un moment,
Cézanne, lève-toi.
Cézanne, lève-toi. Et au bout d'un moment, j'ai eu le sésame pour Cézanne. La chose s'est révélée. Et alors, depuis, naturellement, il me semble vraiment savoir en goûter la plénitude. Je dirais à ce sujet, d'ailleurs, une citation géniale pour comprendre Cézanne, c'est une citation de Rainer Maria Rilke, qui dit « Dans un tableau de Cézanne, c'est comme si chaque point avait conscience de tous les autres. » Je trouve ça absolument formidable. Bon, il y a également la citation de France Gall, on va la faire aussi, elle est moins philosophique, mais c'est sous son chapeau de paille. Elle dit, elle chante. Si le bonheur existe, c'est une étude d'artiste. Intéressant.
Ah ouais.
Je suis pas sûr que ce soit vrai, mais c'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant. Mais ce qui est beau dans ce que vous avez dit sur Cézanne, comme si chaque touche de la peinture englobait la totalité, c'est exactement ce que dit Leibniz du monde et dans sa théorie, la théodicée. Il parle de monadologie et pour lui, dans chaque élément de monade est compris le tout. Dans un perspectivisme infini. Et c'est vrai que parfois, dans le pointillisme ou dans l'impressionnisme, il y a ça quand même.
Oui, et juste avant
de... Il y a un vertige métaphysique.
Avant de vous répondre quand même, je vous le dis, je crois que je ne l'ai jamais raconté à la radio, dans la presse. Si Mona s'appelle Mona, c'est précisément pour la monade de Leibniz.
Ah oui ?
Oui, parce que je voulais qu'il y ait l'idée, c'est pas pour Mona Lisa, je voulais l'idée qu'il y ait son être comme une petite unité en soi. Et donc Mona comme une monade. Petit élément. Et oui, bien sûr. Alors vous avez tout à fait raison pour les pointillistes qu'on appelle plutôt les néo-impressionnistes, parce que pointilliste c'est d'un vocabulaire dédaigneux à leur endroit.
Ah oui.
Et en fait, en effet, vous savez même les néo-impressionnistes comme Seurat ou Signac se disent chaque point du tableau juxtaposé avec un autre va créer une exaltation mutuelle. C'est-à-dire que tous les points sont là pour valoriser l'autre en même temps. Quelque chose d'assez musical.
Et pour entrer aussi en tension.
Et pour entrer en tension, naturellement.
Alors Thomas Schlesser, je vous propose d'écouter Agnès Varda qui nous raconte aussi, avec ses mots à elle, ce que c'est couvrir les yeux ou justement ne pas les ouvrir.
Je crois que les gens ne regardent pas beaucoup. Moi qui suis une boulimique optique, je peux dire, qui regarde tout le temps tout, je suis frappée comme les gens ne regardent pas. Ils passent devant des choses, ils ne les voient pas. Je suis frappée comme quand on montre un film à des gens. Film fait dans une ville, ils découvrent des choses devant lesquelles ils passent tous les jours.
Alors ça, c'est une expérience qu'on fait tous. Hein. Ça veut dire quoi? Qu'on ne sait pas voir. C'est notamment le travail de Christo et de Marie-Jeanne, oui, de nous montrer qu'en recouvrant les monuments d'un voile blanc de la ville qu'on habite et sur lesquels on passe tous les jours, nous apprendre à voir qu'on ne les voyait pas.
Oui, vous venez de faire une petite hallucination stupéfiante, puisque Marie-Jeanne s'appelle Jeanne-Claude en réalité.
Ah oui, pardon.
Marie-Jeanne, c'est un peu autre chose, mais j'aime bien. Elle aurait apprécié. c'est vrai. Maintenant, si vous en êtes d'accord, Charles, je crois qu'il faut éviter aussi de tomber dans une forme de paternalisme qui consisterait à dire que les gens ne savent pas voir, ne savent pas regarder. Je crois simplement que il faut plutôt les inviter à enclencher leurs facultés qu'ils activent très volontiers, par exemple quand ils se baladent dans un beau paysage, à la campagne, etc. L'enclencher plus fréquemment que cela. C'est-à-dire, vous savez, quand on est amoureux, on va regarder tous les détails d'un visage avec un sentiment de plénitude et d'exultation maximale. Mais sans être amoureux, nous avons la faculté en nous-mêmes de regarder quelques visages que ce soit et d'en jouir pour ce qu'il est. À ce propos, c'est la phrase clé de Cézanne qui dit « Il faut aller au Louvre par la nature et revenir à la nature par le Louvre ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que il y a un mouvement de balancier, un mouvement de va-et-vient. Si vous êtes capable de prendre un petit peu de temps pour regarder les portraits du Louvre, vous saurez d'autant mieux voir un visage et vous regarderez d'autant mieux ces portraits du Louvre que vous êtes attentif au visage qui vous entoure dans votre vie quotidienne. Voilà, ça, je crois que c'est une clé de savoir-voir absolument essentielle.
Et ça, c'est passionnant parce que ça veut dire que, d'une part, vous n'êtes pas dans l'élitisme et d'autre part, vous montrez qu'il y a un invariant, finalement. Il n'y a pas d'un côté le beau artistique, de l'autre côté le beau naturel, que si on apprend à voir, ou alors si on cultive même ce qu'on pourrait appeler l'émotion esthétique, d'une certaine manière, il y a quelque chose de commun à apprendre à voir la nature, apprendre à voir un visage et apprendre à voir un Rembrandt.
Exactement, c'est vraiment, vous savez, c'est ce qu'en physique on appelle les boucles de rétroaction positive. Ça fait un peu cuistre, évidemment, de dire ça. Mais je trouve que c'est très juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cause et conséquence. On pourrait dire une symbiose, en d'autres termes. Moi, j'aime bien cette idée du mouvement de pendule, du balancier, qui, alors, pour prendre des catégories pas très satisfaisantes, un peu dualistes, vont de la vraie vie à la représentation et de la représentation à la vraie vie. Mais il faudrait chasser même ces termes-là qui, justement, créent une dialectique trop raide.
Mais c'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'au fond, pour vous, l'art est au service de la vie. Oui. Il n'y a pas d'élitisme. Voilà, l'art nous enseigne à vivre.
Vous savez, c'est vraiment un truc, je sais pas si... je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Quand on faisait nos études dans les études supérieures, j'entends, dans les années 90, il y avait ce culte absolu de l'autoréférentialité, l'autonomie, l'autoréflexivité. Et c'était un truc, moi, qui m'exaspérait.
J'ai vécu ça, oui, la littérature qui a pour objet la littérature, le cinéma qui parle du cinéma.
Exactement, voilà. et qui était en fait l'héritage, en effet, de mouvements artistiques, comme par exemple la Nouvelle Vague qui s'interrogeait beaucoup sur le cinéma par le cinéma, ce qui est tout à fait louable, mais qui n'était pas exclusif de choses un peu plus généreuses et un peu plus ouvertes. Et en fait, moi j'ai tellement mal vécu ce diktat intellectuel dans les années 90, que je m'étais toujours dit, un jour je ferai la démonstration sensible que l'art est au service de la vie. Bah, c'est les yeux de Mona. Voilà.
Et ben voilà, cette démonstration sensible, je l'ai entre les mains. Écoutez bien, c'est un gros livre, il fait 500 pages, il est magnifique. Et d'ailleurs, ce qu'on voit aussi dans ce livre, pour revenir à notre question, comment apprendre à voir, c'est que peut-être, enfin c'est une hypothèse que je vous soumets, apprendre à voir, c'est retrouver l'enfant en soi. Oui. Parce que finalement, cet enfant, cet ado, Mona, à un moment, elle voit des choses et elle nous enseigne. Je pense à, notamment devant Malevitch, devant la croix noire. Elle dit, mais c'est comme si les formes se mettaient à bouger parce que c'est pas exactement symétrique. Et finalement, elle nous apprend à voir à nous.
Oui, parce que, alors c'est vrai des enfants, ça l'est moins des adolescents. Les enfants ont cette merveilleuse faculté de naïveté qui permet une maïeutique plus efficace. Et en effet, ils vont dire des choses qui sont très premier degré devant la croix noire sur fond blanc.
J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent maintenant à aller sur Google, vous tapez croix noire de Malevitch et vous allez comprendre ce que vous dit Mona. Eh bien, les formes bougent.
Voilà, exactement, parce que et c'est comme si c'était le mouvement, mais à son stade élémentaire. Vous savez, cette question, qui est, je crois d'ailleurs, une grande question philosophique aussi, de savoir quel est le seuil entre l'inerte et la mobilité. Ouais. Quand est-ce que commence à bouger quelque chose? Et c'est précisément une problématique à la fois conceptuelle et plastique qui fascine Malevitch. Et c'est ça qu'on ressent dans cette croix noire sur fond blanc. Encore faut-il le regard d'un enfant pour pouvoir le déceler.
Et d'ailleurs, quand on regarde une nature morte, par exemple de Cézanne, les oranges, les pommes, elles sont soi-disant immobiles, mais est-ce qu'elles ne sont pas aussi en train de trembler un petit peu ?
Oui, d'autant que, je ne sais pas si vous avez noté ça, regardez pareil, vous tapez sur Google, ou sur AltaVista, si vous avez un vieux moteur de recherche. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais il y a beaucoup de natures mortes de Cézanne qui donnent le sentiment de venir au premier plan et d'être en train de tomber, de chuter, comme si le tableau se versait à l'extérieur du cadre. Et en effet, de même, ça donne cette sensation de mouvement au stade élémentaire.
Alors, ce que vous pouvez faire, vous qui nous écoutez, donc déjà, c'est vous précipiter sur Les yeux de Mona de Thomas Schlesser, aller voir Cézanne et Nature morte sur Google ou autre, et aller acheter aussi L'œil et l'esprit de Maurice Merleau-Ponty, où il raconte comment il voit la peinture de Cézanne et comment il lui semble justement que ses fruits, ses pommes, ses oranges se détachent comme des figures sur le fond du monde, dans ce qui est finalement, Thomas Schlesser, un mouvement et non pas une immobilité.
Oui, j'adore, alors je ne sais plus si elle est de Merleau-Ponty lui-même, mais vous savez, cette expression consiste à parler de la chair du monde, tissu du monde. Il y a un passage des yeux de Mona sur ce sujet quand il est question de cette merveilleuse artiste qu'est Georgia O'Keeffe. Et au fond,
oui, le monde est une chair.
Voilà.
C'est l'enseignement de Georgia O'Keeffe d'après le grand-père.
Oui, parce que, alors, dans le sens où, vous savez, Georgia O'Keeffe fait ces formes qui sont à la frontière entre abstraction et figuration et dont on a le sentiment qu'elles sont très, très organiques. Alors, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi que chez Georgia O'Keeffe, sa manière de peindre les paysages, consiste en un entremêlement où les choses apparaissent comme insécables. C'est pas comme s'il y avait un arbre posé sur une colline qui était posé sur un sol lui-même au bord d'un lac. C'est tout qui est entremêlé et qui constitue du coup une chair.
Incroyable. Je vous propose, Thomas Schlesser, et puis à toutes celles et ceux qui nous écoutent pour cette nouvelle année, une expérience métaphysique. Alors, ce n'était pas prévu, mais ce que nous dit Merleau-Ponty, c'est que notre corps est pris dans le tissu du monde. Nous, vous, mais aussi les pommes, mais aussi les montagnes, tout est entrelacé dans la même chair du monde. Et du coup, on peut en déduire une sorte de solidarité, même écologique, à l'égard de tous les vivants. Alors, revenons à notre sujet, apprendre à voir. Est-ce que c'est pas aussi toujours apprendre à voir avec les yeux des autres, notamment, là, c'est l'œil du grand-père, mais aussi avec les yeux des morts, quand l'artiste est mort, mais aussi peut-être avec les yeux de tous les autres qui ont vu le tableau auparavant dans le musée et qui peut-être aussi sont morts.
C'est absolument fascinant d'ailleurs comme pensée. Alors là, on est plus dans une expérience quasiment spirituelle, plus
bonne
que philosophique.
Année, quoi, hein.
Mais c'est fascinant quand vous vous dites, mais au fond, combien de temps cumulé une œuvre a existé dans tous les yeux, tous les regards qui se sont posés sur elle. Imaginez ça, voyez ? Tous les moments où elle a été activée par les pupilles qui l'ont dardée. Et je crois du coup que quand on regarde soi-même, on regarde aussi les autres regards qui se sont posés sur telle ou telle œuvre, sur telle ou telle chose. Et ce faisant, on crée une communauté d'esprit par la communauté des regards. Il y a quelque chose de profondément politique et de joliment politique dans le fait de tous regarder, de partager ce que nous regardons.
Vous voulez dire qu'on est ensemble, quoi? On est ensemble quand on regarde.
Vous voulez de moi, là?
Non, c'était pas ironique. Non, je veux dire qu'on est ensemble même quand on est seul devant un tableau.
C'est exactement. C'est-à-dire qu'on est ensemble par-delà espace et temps. Et moi j'ai cette émotion énorme, mais ça je pense que tout le monde se l'est dit d'une manière ou d'une autre. Vous allez devant un monument ancestral ou devant un très vieil arbre, vous le regardez, vous vous dites quand je pense que se sont posés les yeux des Égyptiens du premier millénaire avant notre ère, ou se sont posés les yeux de quelqu'un du Moyen-Âge devant cet olivier, et à mon tour je le regarde, et ça crée Voilà, les morts sont parmi les vivants, du coup.
Ouais, et d'ailleurs, on retrouve aussi votre regard à vous, qui est de ne pas tellement hiérarchiser, de ne pas parler d'une beauté artistique qui serait différente de la beauté de l'arbre, au fond. Il y a des différences, évidemment, mais dans le rapport que nous avons à cette beauté, il y a peut-être un invariant. Ça m'a fait aussi penser à la phrase de Stendhal, très débattue, la beauté n'est que la promesse d'un bonheur.
Oui.
On pourrait presque dire d'un bonheur partagé.
Oui, c'est vrai. Et si vous voulez, s'il n'y a pas de différenciation, c'est qu'en fait, quand vous regardez quelque chose, vous croyez que vous le regardez objectivement, mais en fait, votre regard lui-même est forcément, vous ne pouvez pas faire autrement, une forme de composition artistique. Votre regard cadre, votre regard est nourri de quantité d'émotions, de votre passé, de votre savoir, ce qui fait que votre regard objectif est toujours à minima un peu une représentation subjective.
D'ailleurs, Thomas Schlesser, j'ai envie d'ajouter, en n'étant pas du tout technophobe et pas du tout vieux grincheux, que peut-être le téléphone portable aide à faire ça.
Ouais.
Parce que quand on prend la photo...
Ouais.
On la cadre.
Oui.
Moi, je trouve que moi, j'adore, ça énerve beaucoup de gens, mais moi, j'adore prendre des photos avec mon iPhone quand je suis dans un musée. J'ai l'impression de faire quelque chose et de trancher, de délimiter, de faire surgir.
Vous avez raison, je vous dis un truc, parce que moi non plus, je suis pas technophobe. Et donc, pareil, toujours, j'essaye de temps en temps, je me dis, bon, allez, je vais faire plaisir en disant que je supporte pas les gens avec les téléphones portables, mais c'est pas vrai. En fait, que font les gens quand ils font une photographie avec leur portable? Je crois qu'ils n'utilisent pas du tout le portable comme un appendice de leurs yeux. Je crois pas ça. C'est un appendice de leurs mains. Parce que prendre une photo avec le portable, c'est au fond essayer d'accomplir fantasmatiquement le rêve de s'emparer de l'œuvre d'art, de la prendre dans ses mains. Et comme on peut pas la prendre dans ses mains, on la prend avec le portable.
C'était Laura Cahen, Les Astres.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours, et c'est vraiment passionnant, on ouvre les yeux et les oreilles avec Thomas Schlesser pour cette nouvelle année. Bonne année à tout le monde. Et Thomas Schlesser, vous êtes à la fois professeur à Polytechnique, directeur de la Fondation Hartung, mais aussi romancier à succès, notamment de ce carton de librairie, même au plan mondial, Les yeux de Mona, chez Albin Michel. Et on se posait ensemble cette question, comment apprendre à voir. Je voudrais maintenant qu'on entre plus dans le sommaire de votre livre, comme j'avais annoncé, puisque le grand-père de Mona associe à chaque tableau un enseignement de vie. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un peu sur, d'après lui, donc d'après vous quand même, ce que Watteau nous apprend, à savoir qu'en toute fête, sourd une défaite.
Oui, et sourd du verbe sourdre, hein, pas de s'ouvrir,
ouais,
c'est en
sûr.
Toute fête, sourd une défaite. Watteau fait un tableau bouleversant, tellement étonnant, qu'est ce grand personnage de Commedia dell'arte, un Pierrot.
Donc là aussi, chers auditeurs, allez le voir maintenant pour qu'on
pas hésiter, oui.
On parle en le regardant. Oui.
Autour de lui, il y a d'autres personnages qui sont en contrebas. Lui est en pied, tout vêtu de blanc, et il a l'air triste. Et ce tableau, selon toute vraisemblance, c'était certainement soit un hommage à la Commedia dell'arte, peut-être même un tableau d'enseigne publicitaire pour un théâtre.
Oui.
Et il est exécuté à un moment de l'histoire de France, qui est la Régence, qui est un grand moment de respiration, pas pour toute la société française, mais pour une bonne partie d'entre elles, et notamment toute la noblesse de province, parce que la fin du règne de Louis XIV était épouvantable, l'État était exsangue. Et il y a comme une espèce de bouffée de joie, de bouffer, de jouir, et où on se dit qu'on a droit au bonheur. Et d'ailleurs, vous savez, cette grande conquête du XVIIIe siècle, le fait qu'on ait droit au bonheur, c'est un acquis politique absolument, absolument immense.
On connaît cette phrase, le bonheur est une idée neuve en Europe.
Oui.
Absolument. Qui est de la fin du XVIIIe, justement.
Absolument. Et donc, Watteau peint ce qui devrait être plein de joie et de jeu, une scène de Commedia dell'arte, mais le personnage principal en est extraordinairement mélancolique. Et donc
c'est Pierrot.
Et donc la leçon qu'en tire Henri avec sa petite fille, Henri le grand-père, c'est qu'en toute fête sourd une défaite. Derrière les bouchons de champagne et le pétillement, il y a un moment où les choses retombent. Et ça, je crois que c'est très important parce que le moment de la fête, c'est le moment de la vitesse. La fête, ça va vite, c'est des plaisirs qui vont vite, qui sont très exaltants.
Ça doit rappeler à quelques personnes, pas toutes, ce qui s'est passé hier. Peut-être.
Exactement, pendant le Nouvel An. Et derrière, il y a toujours une retombée. Et cette retombée, ce moment de la défaite, c'est un moment qui est souvent mélancolique. Or, ce moment mélancolique, il est capital. Pourquoi ? Ouais. Parce que c'est un moment de profondeur. Vous savez, il y a cette très belle phrase de Michel-Ange qui dit « Ma joie est la mélancolie ». Moi, je crois vraiment aux vertus de la mélancolie. Je dis pas forcément de la dépression sévère, mais de la mélancolie. Ouais. C'est ce qui donne sa profondeur aux choses, la mélancolie. C'est ce qui leur relief.
Et c'est ce que Watteau nous enseigne.
Je crois. Et c'est pour ça que ce Pierrot est bouleversant et qu'il a cette consistance tellement immense, c'est que au milieu de ce qui devrait être une enseigne promouvant la fête et le jeu, il est cette effraction de mélancolie.
Et je me souviens d'ailleurs de très belles pages de Jacques Henric sur Watteau dans son livre La peinture et le mal.
Absolument. Jacques Henric, qui est un écrivain que j'adore en plus, et qui en a un ami, donc.
Je sais. Pas.
Et qui est un grand amateur de peinture, et pas simplement d'art contemporain, de peinture classique.
Donc ça fait une autre référence, allez donc vous procurer aussi La peinture et le mal. Alors maintenant, on enchaîne, dans votre sommaire, il y a Manet, Les is mort, Soulage, Le noir est une couleur, mais peut-être arrêtons-nous sur Hartung, qui nous enseigne la chose suivante, va comme l'éclair, et d'autant plus intéressant de vous entendre parler d'Hartung que vous dirigez la Fondation Hartung.
Oui, alors la Fondation Hartung qui est en fait dans sa villa-atelier à lui et à sa femme Anna-Eva Bergman, dans le sud de la France à Antibes, c'est ouvert de mai à septembre, c'est un endroit extraordinaire, vraiment très très beau, et on voit en particulier son atelier. Son atelier dans lequel il y a quantité d'instruments, d'outils avec lesquels il réalisait des œuvres abstraites, mais ces œuvres abstraites étaient toujours hantées par l'orage par la foudre et par l'éclair. Pourquoi ? Parce que gamin, Hartung avait peur de l'orage et il se disait que s'il dessinait des éclairs très vite, plus vite que l'intervalle entre le flash lumineux et le bruit du tonnerre, eh bien rien ne pourrait lui arriver, qu'il conjurerait la peur. Ouais. Et de fait, il a fait un art qui est un art vraiment de la virtuosité et de la vitesse abstraite. Et parmi ses œuvres, vous en verrez beaucoup, en fait, ce sont des sortes de nappes colorées, ouateuses, et sur lesquelles, soit avec un pinceau, soit avec une lame, eh bien, il va ajouter un trait ou un zigzag qui donne cette sensation d'éclair. Et évidemment, ce que veut dire Hartung quand il dit, quand il fait cette promotion de la foudre, c'est celle d'une impétuosité et de la capacité à ne jamais se laisser dicter par autre chose que par ses propres règles.
Oui, l'éclair, c'est la singularité, c'est la décision de n'écouter que soi.
Exactement, c'est ça. Et encore une fois, son intériorité, sa corporéité, sa gestualité. Et d'ailleurs, Mona va accomplir la leçon de Hartung en quittant subitement une salle de classe après avoir dit ce magnifique poème de Baudelaire qui est à une passante, où à un moment donné, il est question justement d'un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître.
Ah oui, exact. Et d'ailleurs, ça me fait penser que vous avez dû vivre ça, vous qui avez été, je crois, un mauvais élève, sauvé par la poésie à l'adolescence.
C'est vrai. Alors, c'est vrai.
Quel poème ?
C'est surtout Apollinaire qui m'a sauvé de la... Je sais pas comment dire, je n'aimais pas l'école, tout simplement. Ouais. Et puis, j'étais pas bon. Et notamment au collège, j'étais très mauvais. J'étais toujours le dernier à ne pas redoubler. Ce qui est une position extrêmement humiliante. Et qui était très angoissante. Je le dis maintenant avec le sourire, mais moi, j'ai été un mauvais élève. Et quoique mauvais élève, j'ai, à 12-13 ans, j'ai été saisi par la poésie. Ce qui m'a servi dans mes études un peu plus tard. J'ai été meilleur élève à retardement. Et Apollinaire, par sa liberté de langage, par son côté aussi souvent très concret, une poésie très accessible, Apollinaire, m'a bouleversé. Allez, juste comme ça, cinq vers d'Apollinaire. Mon beau navire ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire? Avons-nous assez navigué de la belle aube au triste soir? Merveilleux.
Ouais, le rythme est tellement beau. Merci beaucoup Thomas Chesser. Vous avez aussi écrit un livre beaucoup plus érudit sur Paul Chenavard. J'en parle parce que il est sous-titré Monument de l'échec.
Oui, d'ailleurs, il a pas fait un carton en librairie celui-là. Je crois que j'en ai vendu 12, il me semble. C'est un livre très universitaire.
Oui, mais Monument de l'échec, c'est intéressant comme sous-titre.
Oui, absolument, parce que Paul Chenavard, j'en dis un petit mot, c'est un artiste du 19e siècle, lyonnais, né en 1807, mort en 1895. Extraordinairement doué, qui avait une situation familiale et personnelle confortable, et qui fait que c'est quelqu'un qui s'est dit « je ne créerai que avec un absolu en ligne de mire ». Et par conséquent, c'est un artiste qui n'a quasiment rien achevé dans sa vie, et qui du coup a une carrière qui est sous le sceau de l'échec plutôt que de la réussite. Mais c'est un artiste avec un trajet de vie fascinant. Et les quelques œuvres qui existent de lui, la Divine Tragédie par exemple au Musée d'Orsay, c'est tout à fait remarquable et intéressant à aller regarder.
Thomas Schlesser, avant de finir l'émission, on vous a préparé un petit cadeau. C'est Bergson, une véritable archive sonore. Je crois que c'est la seule dont on dispose de Bergson, qui nous parle justement de ce que c'est que ouvrir les yeux.
Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.
Oui, Bergson, vous savez, dans sa thèse, qui va donner son livre le plus connu, Les données immédiates de la conscience, c'est ça, parle de l'art en faisant l'analogie avec l'hypnose. Et il explique qu'il y a dans l'art une façon, au fond, de réduire les résistances de celui qui est face à l'objet représenté, et ce faisant, eh bien, d'être sous la puissance active, quasiment narcotique, de l'artiste. Hein. Une chose donc, une analogie entre art et hypnose. Je dois vous dire que c'est pas tout à fait ma conception des choses, mais en même temps, évidemment, quel immense esprit, naturellement.
Merci beaucoup, Thomas Chasseur. C'était un plaisir de voyager avec vous dans l'histoire de l'art ce matin, sous le soleil de Platon, qui fut celui plutôt de Botticelli et de Rosa Bonheur, mais aussi de Platon, puisque vous avez dit que le beau doit mener au bien. Je vais essayer de dégager, comme je le fais pour chaque invité, votre philosophie de la vie. Ah bah justement, c'est une philosophie de la vie vraiment, au sens où il s'agit de que l'art soit au service de la vie, que l'art n'est pas pour objet l'art, que la littérature n'est pas pour objet la littérature, mais la vie elle-même, une philosophie du regard bien sûr, de la patience aussi, de la quête du beau. Et puis j'ai beaucoup aimé, et ça d'ailleurs ça n'est pas platonicien, une philosophie qui envisage le dépassement du dualisme. Ce n'est pas en taisant son corps et en faisant triompher son esprit, ni l'inverse, que l'on va apprendre à voir, mais en manifestant sa présence complète, en essayant de se laisser traverser. Et peut-être, j'aurais envie de finir par cette notion de transe dont on n'a pas parlé, mais dont on sent qu'elle est peut-être pour vous, quand on lit Les yeux de Mona, quelque chose comme une définition de l'émotion esthétique, cette transe pouvant d'ailleurs être une transe très douce. Thomas Schlesser, merci beaucoup.
Merci Charles.
Cette émission a été préparée, excellemment préparée, merci beaucoup, par Laura Dumez et Audrey Carme. À la programmation musicale, Valentine Chedebois. Merci pour Bob Marley, j'avais pas envie au début, mais finalement, je m'y suis fait. Elle a été réalisée par Antoine Larcher, avec à la technique Florian Dorimini.